Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous revivrons dès le début de ce journal le choc aux États-Unis. Après l'intrusion hier soir au Capitole à Washington de quelques centaines de partisans de Donald Trump, une militante est morte, tuée par un tir de policier.
Après quelques heures d'interruption, les débats ont repris. Au Congrès, les élus doivent certifier l'élection de Joe Biden. A priori, cela se fera maintenant sans encombre.
Mais la démocratie, après ces violences, est-elle fragilisée aux États-Unis? Donald Trump est-il fini? Nous poserons ces questions à l'invité du journal, le politologue Denis Lacorne, spécialiste des États-Unis.
Et puis dans cette édition, également la difficile position de Roselyne Bachelot, ministère de la Culture, ce jeudi. Les lieux culturels auraient dû rouvrir. Après 2 mois et demi de fermeture, il n'en est rien.
Car l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas, c'est le cas d'ailleurs partout en Europe, avec pour chaque pays ses polémiques autour de la vaccination. Nous irons ce matin en Pologne, où des célébrités sont passées devant le personnel soignant pour se faire vacciner. Les images marqueront l'histoire des États-Unis. Des élus portant des masques à gaz, des agents de la police en civil, armes au poing dans les couloirs du Capitole, pendant que des militants exultaient torse nu à la tribune de la Chambre basse ou dans le bureau de sa présidente. Le Capitole, symbole de la démocratie américaine, abritant le Sénat et la Chambre des représentants, le Capitole a donc été envahi hier soir par quelques centaines de partisans de Donald Trump, tous poussés à l'insurrection par le président lui-même. Avant de revenir sur ce chaos politique, voici d'abord le fil de la soirée que nous raconte notre correspondant. Grégory Phillips était au milieu des manifestants quand ils ont réussi à pénétrer dans le Capitole.
La police du Capitole a beau lancer des grenades lacrymogènes, la foule pousse trop fort et au bout de quelques minutes, elle parvient à envahir la terrasse qui surplombe le mall, l'esplanade au cœur de Washington. Puis une première porte cède, les équipes de sécurité sont débordées et les partisans de Trump déboulent dans la salle des statues, sous la coupole. Ils atteignent le Sénat, puis la Chambre des représentants qui vient d'être évacuée et même le bureau de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre, où certains se font prendre en photo.
On reprend notre pays. Ce pays est à nous, pas à eux. Eux, ce sont des criminels. Et ce Joe Biden, il est foutu. Lui aussi, c'est un criminel. Regardez ces histoires avec l'Ukraine.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Moi, j'ai profité du spectacle.
En fin d'après-midi, dans un nuage persistant de gaz lacrymogène, les manifestants ressortent du Capitole. Ron est extatique.
C'est très beau. Il fallait faire ça. C'est le seul moyen de nous faire entendre. On est en colère, on est énervé. Nous sommes prêts à la guerre s'il le faut. Et non, Joe Biden n'est pas notre président. C'est Trump.
À la nuit tombée, les policiers du Capitole annoncent avoir repris le contrôle du bâtiment et la capitale fédérale est placée sous couvre-feu pour une douzaine d'heures.
Et le bilan se dessine ce matin un peu plus. Une manifestante est morte, victime d'un tir par balle dans le bâtiment, abattue par l'un des policiers présents. 3 autres personnes seraient décédées à cause d'urgence médicale, dit la police, sans plus de précision. Police qui a aussi découvert 2 bombes artisanales au siège des comités nationaux républicains et démocrates. Hier soir, 52 personnes ont été arrêtées. Alors ce matin, à 8h, heure française, 2h à Washington, le calme semble revenir. En tout cas, la police aidée de la garde nationale encadre le Capitole. Le couvre-feu doit durer encore 4 heures. Et nous retrouvons sur place en direct depuis Washington, Loïc Loury, bonjour.
Bonjour Clara.
Il s'agit maintenant, Loïc, de certifier l'élection de Joe Biden au Congrès.
Oui, le processus démocratique désormais suit son cours, alors beaucoup plus lentement que d'habitude. Vous savez, Donald Trump avait demandé à ses plus fidèles parmi les élus de contester le résultat de la présidentielle dans certains États. Cela s'est produit hier avec l'Arizona. Le recours depuis a été rejeté, mais à chaque fois, eh bien, les deux chambres doivent se séparer. Un débat a lieu, il peut durer 2 heures. C'est la Pennsylvanie qui a ensuite fait l'objet de l'un de ces débats, mais c'est en train de se terminer et aucun autre État, a priori, ne sera ensuite contesté. Cela peut désormais aller très vite. Il faut dire qu'après les événements d'hier, les élus, y compris républicains, ont semblé plus désireux d'en finir avec ce qui ne devrait être qu'une formalité. Le temple de la démocratie américaine a été profané, a dit le démocrate Chuck Schumer. Il faut en quelque sorte, Clara, arrêter les frais.
Voilà, les débats qui ont donc repris après ces événements, Loïc, pour certifier la victoire de Joe Biden. Entrée prévue à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, c'est-à-dire dans 13 jours. Joe Biden qui aura même la majorité dans les deux chambres, les démocrates ayant remporté les élections sénatoriales en Géorgie hier. Loïc, à quoi pourrait maintenant ressembler les jours qui viennent?
Eh bien, très franchement, c'est un peu le brouillard encore ce soir à Washington après les événements d'hier. Les résultats seront certifiés. Cette nuit, Donald Trump, lui, quittera la Maison-Blanche le 20 janvier. La Constitution est formelle. Mais entre les deux, on se demande un peu ce que nous réserve le président ou son entourage, parce que selon certains médias, eh bien, des ministres discuteraient de la possibilité d'invoquer le 25e amendement. Il prévoit que le vice-président et une majorité du cabinet peut déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Bien sûr, on n'en est pas encore là, mais qui sait, Joe Biden, lui, en tout cas, va continuer de gérer son agenda comme le président élu normal qu'il veut être, qu'il veut incarner, constitution de son cabinet notamment, même s'il est difficile pour lui d'ignorer Donald Trump et le spectacle constant de sa présidence. En tout cas, vous le disiez, un motif de grande satisfaction, il aura la majorité dans les deux chambres et donc les moyens de défaire plus facilement l'œuvre de son futur prédécesseur.
Merci beaucoup Loïc Loury pour ce premier éclairage. Nous sommes maintenant en ligne avec Denis Lacorne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste des États-Unis. Donald Trump parle toujours de fraude, d'une présidentielle qui lui a été volée. Il l'a redit encore tout en appelant au calme. Est-il, selon vous, responsable de cette violence visible et symbolique hier ?
Aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'il a, tout fait pour inciter ses partisans, d'une part, à venir à Washington, faire une démonstration de force, et il les a aussi incités à aller vers le Capitole. Et il a dit d'ailleurs, après le chaos et les événements sanglants auxquels on a assisté, il l'a dit aux manifestants, je vous aime, quittez le Capitole, mais je vous aime, qui est un message contradictoire, tout en ajoutant, on m'a volé l'élection. Donc, on assiste à une fragilisation de la démocratie américaine, parce que le fondement de la démocratie, c'est la passation pacifique des pouvoirs d'un président à un autre. Et là, la chose s'est mal passée, provisoirement en tout cas, et toute la question, c'est que faire de cet entêtement conspirationniste d'un président qui prétend avoir gagné l'élection alors que Biden l'a emporté avec 7 millions de voix de plus que le président sortant. Et donc il y a cette espèce de folie présidentielle auquel il faut faire face.
Et quel est le but, selon vous, de Donald Trump en attisant la violence de ses partisans, la haine ?
C'est le fait qu'il ne peut pas accepter d'avoir perdu, c'est tout le problème de Trump. Tout son programme politique, s'il y en avait un, c'est positiver tout ce que je fais est formidable, et donc je ne peux pas échouer. Et à partir du moment où là il y a un échec qui est final et décisif, c'est quelque chose d'impossible pour lui à admettre. Et la grande question qui se pose pour les deux semaines qui restent, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'un président devenu totalement fou. Alors, le bon scénario serait qu'il continue à jouer au golf et qu'on n'entende plus parler de lui. Le mauvais scénario, c'est que il va persister dans sa folie, et alors il faudra soit le mettre en accusation devant la Chambre des représentants, soit, comme le disait votre correspondant, invoquer le 25e amendement qui permet au vice-président, avec une majorité des ministres, de dire le président est dans l'incapacité d'exercer ses pouvoirs. Oui. Mais c'est une procédure très lourde, longue, et qui nécessite à un certain moment le vote des deux tiers des deux chambres. Donc c'est peu probable que le 25e amendement soit utilisé.
Vous parlez d'un échec final et décisif pour Donald Trump. Quid de son camp, les Républicains, pour les semaines, oui, les mois, les années à venir ?
Je crois la bonne nouvelle, c'est que Trump en a trop fait, donc il a tué son propre avenir. Il n'y aura pas de Trump en 2024 parce que il s'est autodétruit. Lui, le président de la loi et l'ordre, a démontré qu'il était le président du chaos et de l'échec.
Malgré la présence de partisans qui sont toujours présent, on l'a vu.
Bien sûr, et les partisans sont là, ils se sont déjà positionnés, ils ont déjà, à mon avis, pressenti que Trump, c'était bientôt fini, donc autant se mettre en place pour le remplacer en 2024. Et les partisans sont Ted Cruz, par exemple, qui, dans cette procédure de certification, a essayé de demander qu'on remette les choses à jour, qu'on vérifie les votes en Pennsylvanie ou dans l'Arizona. Mais Ted Cruz a invoqué 1876, qui n'a aucun rapport avec la situation actuelle. Donc il y a de la part de Cruz une ambition politique personnelle et une interprétation délibérément fausse de l'histoire des États-Unis. Il faut aussi ne pas oublier que c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis que le Congrès est envahi par des extrémistes. La première fois, c'était en 1812, lorsque les Anglais ont envahi Washington et détruit et la Maison-Blanche et le Capitole. Donc un événement comme celui auquel on assiste n'a pas eu lieu depuis 1812.
Merci beaucoup Denis Lacorne. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est en plein chaos politique donc que se réveilleront tout à l'heure les habitants aux États-Unis. J'ajoute encore quelques réactions d'anciens présidents américains. D'abord Barack Obama qui évoquait hier un moment de grande honte, de grand déshonneur pour la nation. Bill Clinton dénonce un assaut sans précédent. Une insurrection digne d'une république bananière pour George W. Bush. À l'étranger par ailleurs, Londres dénonce des scène honteuse quand en France Emmanuel Macron appelle à ne rien céder face à la violence de quelques-uns contre la démocratie.
8h10, suite des matins de France Culture avec le journal de Clara Lecoq-Réal. C'est aujourd'hui qu'aurait pu ouvrir les lieux culturels en France.
Oui, les théâtres, musées, salles de spectacle ou de cinéma en ce 7 janvier. Pourtant, il n'en est rien. Les chiffres de contamination au Covid-19 dans l'Hexagone ne baissent toujours pas sensiblement et l'heure est plutôt à un durcissement des restrictions. La culture souffre et sa ministre Ruth Valois peut-elle encore faire quelque chose? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Ce n'est pas Roselyne Bachelot qui a annoncé au Monde de la Culture qu'il n'y avait pas d'espoir de réouverture des salles de spectacle le 7 janvier. C'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, vendredi dernier sur TF1.
Il ne sera pas possible de rouvrir les établissements culturels au 7 janvier parce que le virus circule encore très fortement dans notre pays.
Et ce n'est pas la première fois que la ministre n'est pas associée à l'annonce de décisions prises pour le secteur culturel. Le 10 décembre déjà, lors d'une conférence de presse de Jean Castex avec plusieurs ministres importants, elle n'était pas là. Ce qui avait surpris les journalistes présents.
L'absence de Madame la ministre Roselyne Bachelot n'est-elle pas un mauvais signal envoyé au Monde de la Culture ce soir ?
Non, mais l'absence de la ministre de la Culture n'a absolument aucune signification.
Et du coup, depuis plusieurs semaines, les journalistes comme le monde culturel s'interrogent. De quelle marge de manœuvre dispose Roselyne Bachelot ? Est-elle une ministre qui compte ? Le 15 décembre, sur Europe 1, le Premier ministre était venu à sa rescousse.
Roselyne Bachelot, je veux te rendre un hommage particulier à la
ministre de la Culture. Vous avez besoin de rendre un hommage, elle est fragilisée en ce moment.
Elle n'est pas fragilisée, Roselyne. Elle se bat comme une lionne pour le secteur culturel.
Elle se bat, Roselyne Bachelot, c'est aussi ce qu'on répète au ministère de la Culture, dans les couloirs de l'Élysée et du côté de Bercy. Tous ceux qui ont râlé en décembre, explique un conseiller, les acteurs, les comédiens, elle les a appelés un par un. Et puis il est faux de dire qu'elle perd les arbitrages, reprend un autre. Elle a obtenu 2 milliards du plan de relance pour la culture. La culture ne serait donc aucunement sacrifiée et il n'y a pas de problème Bachelot au gouvernement. Au contraire, nous dit-on, elle s'y montre particulièrement pugnace. D'ailleurs, pour son anniversaire le 24 décembre, elle a reçu en cadeau une broche à l'effigie d'une lionne et ça lui a, paraît-il, fait particulièrement plaisir.
C'était Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Ce soir à 18h, le Premier ministre Jean Castex devrait s'exprimer sur les restrictions sanitaires en France, prolongeant peut-être les fermetures des bars, restaurants ou stations de ski au-delà du 20 janvier prochain. L'exécutif fera aussi un point ce soir sur la vaccination. À ce propos, et pour montrer l'exemple, disent-ils, 200 personnalités du monde du spectacle signent aujourd'hui un plaidoyer pour la vaccination. L'initiative est lancée par le comédien et metteur en scène de théâtre Stanislas Nordet. En Pologne, ce sont 18 personnalités publiques qui ont pu se faire vacciner, mais avant tout le monde. Depuis plusieurs jours, la polémique enfle dans le pays, car la vaccination y est pour le moment réservée au seul personnel médical polonais. Et pourtant donc, certains ont pu y accéder, Sarah Bakaloglou.
Fin décembre, le centre médical de l'Université de médecine de Varsovie vaccine 18 célébrités contre le Covid-19. Parmi elles, Christina Yanda, une des plus grandes actrices du pays, la chanteuse Magda Omer, mais aussi l'ancien Premier ministre Leszek Miller. Pour l'université, ces personnalités auraient vocation à être des ambassadrices du vaccin en Pologne. Mais l'initiative a suscité un flot de critiques. Le ministère de la Santé a lancé une inspection lundi de l'Université de médecine de Varsovie, dénonçant une violation délibérée des directives du programme de vaccination nationale qui prévoit que seul le personnel médical peut être vacciné pour l'instant. Nous n'avons trouvé aucune trace d'un accord faisant état d'une campagne promotionnelle avec ces personnalités, a par ailleurs annoncé le ministre de la Santé, ajoutant que les célébrités avait été enregistré en tant que personnel non médical mais travaillant à l'hôpital. Les dénonciations d'un système de privilèges et de passe-droit ont donc afflué dans le pays. Pour peu que vous ayez les bons amis, vous pouvez être vacciné quand vous voulez, a écrit un journaliste du site d'information Honnête. Et cela a suscité aussi la colère de certains professionnels de santé dans un contexte de deuxième vague particulièrement meurtrière en Pologne. Si le pays avait été plutôt épargné lors de la première vague, le nombre de décès liés au Covid-19 a fortement augmenté ces dernières semaines. Le gouvernement espère donc que d'ici à la fin mars, 3 millions de Polonais soient vaccinés.
Et en plus du vaccin de Pfizer et BioNTech, les Européens peuvent désormais utiliser celui du laboratoire américain Moderna. En tout cas, le feu vert a été donné hier par Bruxelles. Dans l'Union européenne, plus d'un million d'habitants ont déjà reçu une dose du vaccin contre le Covid-19. Les Danois, les Allemands et les Italiens faisant la course en tête. Encore quelques averses aux abords des côtes de la Manche ce matin sous la grisaille. Grisaille qui va se décaler vers l'est au fil de la journée. Ailleurs et notamment sur le sud, le ciel sera bien dégagé. Ce matin, il fait moins 8 à Aurillac, moins 1 au Mans et à Bordeaux, 2 degrés à Paris et Strasbourg, 4 degrés à Nice, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, on va revenir sur les événements d'hier à Washington DC et sur la manière dont le camp Trump, un certain nombre de ses partisans refusent les résultats des élections. Nous serons en compagnie de l'ancien ministre et diplomate Hubert Védrine. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardette pour la transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte qui donnera la parole à un artiste. Et puis dans quelques instants, un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous revenez sur le silence numérique de Donald Trump depuis hier soir.
Oui, le président américain bloqué par Facebook et Twitter qui étaient ses deux canaux de communication préférés.